France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Stéphane Poitvin, Emmanuel Dupuis et Olivier Déhaye. Voici la deuxième émission de notre série consacrée au ballet de l'Opéra de Paris. Hier, nous étions baroque entre ballet de cour, comédie ballet et autres opéra-ballet. Aujourd'hui, nous serons romantiques au sens premier et historique du terme avec les années 1800-1840 qui nous permettront d'entendre des œuvres de Spontini, Herold, Rossini, Meyerbeer et Adolphe Adam, auteur de la célèbre et incontournable Gisèle, qui terminera cette émission. Mais nous commencerons sous la Révolution française, à l'époque où le ballet de l'Opéra de Paris est dirigé par le danseur et maître de ballet Pierre Gardel, qui invite en 1793, au moment où la France est en guerre contre certains de ses voisins européens, qui invite Étienne-Nicolas Méhul à évoquer la guerre de Troie en danse dans l'ouverture du ballet de Paris. L'ensemble L'Arte del Mondo, dirigé par Werner Erhardt, c'était l'ouverture du ballet de Paris d'Étienne Nicolas Méhul. Paris, bien sûr, le beau Paris de la guerre de Troie. C'est une partition de 1793, comme je le disais, qui est une partition du début de la carrière de Étienne Nicolas Méhul, à qui nous avions consacré 5 émissions en octobre 2017 pour le bicentenaire de sa mort. 5 émissions qui vous attendent sur notre site internet, bien sûr. Méhul, qui refuse en 1806 un livret anti d'un certain Étienne de Jouy, futur librettiste du Guillaume Tell de Rossini, dont il sera question aux alentours de 14h-14h05. Et ce livret d'Étienne de Jouy, c'est celui de la Vestale, que va accepter un autre compositeur, Gaspare Spontini, attiré depuis quelques années à Paris pour le goût de Napoléon, pour la musique italienne. La Vestale, c'est un opéra qui sera créé le 15 décembre 1807 et qui sera l'un des grands succès de l'opéra de Paris sous l'empire de Napoléon Ier. Un succès qui va traverser les frontières, puisqu'en 1818, la Scala de Milan proposera une adaptation chorégraphique de cette partition de Gaspare Spontini grâce au grand danseur Salvatore Vigano. La Vestale, dont voici un extrait avec justement l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Riccardo Muti. C'est un extrait du premier acte qui nous permet de savourer ce ballet de l'Empire. Un extrait du ballet de la Vestale de Gaspare Spontini, interprété par l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Riccardo Muti, partition donc créée en 1807 à Paris, dans ce qui était alors l'Académie impériale de musique. L'Opéra de Paris a changé bien souvent de nom en fonction des régimes politiques. Tout d'abord, en 1669, à sa fondation, il y a 350 ans, c'était l'Académie d'Opéra, puis ce sera l'Académie royale de musique. Sous la Révolution française, on parlera d'opéra national, de théâtre des arts, de théâtre de la République et des arts. Et puis pour Napoléon, ce sera l'Académie impériale de musique. Avant le retour de la Restauration, donc ce sera de nouveau l'Académie royale. Et puis ce changement de nom va s'opérer tout au long du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. Nous sommes donc là au début de ce 19e siècle très marquant pour la danse. J'ai eu l'occasion de citer de nombreux danseurs qui ont marqué en profondeur l'histoire de la danse en France et dans le monde, comme Jean-Georges Nauvert ou encore comme Pierre Gardel. Voici un autre nom à retenir, celui de Jean-Pierre Homer, A-U-M-E-R, concurrent de Pierre Gardel, le tout-puissant directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Jean-Pierre Homer, en 1826, devient second maître de ballet et c'est lui qui va régler la chorégraphie d'un grand succès de la Restauration. Il s'agit d'un spectacle qui s'intitule « La somnambule » avec des partitions du compositeur Ferdinand Hérold, créé en 1827. À ne pas confondre avec la célèbre Sonnambula de Bellini, créée 3 ans plus tard à Milan. Tous les deux, Bellini et Hérold, s'inspirant d'une même pièce de Jean Scribe, créée en 1819. La somnambule, en voici un extrait, donc partition de Ferdinand Hérold, interprétée par l'orchestre Victoria, dirigé par Richard Bonning. Thank you. Sur France Musique, vous venez d'entendre un extrait de la Somnambule de Ferdinand Hérold avec l'orchestre Victoria dirigé par Richard Bonning, grand connaisseur de la musique de ballet, grand serviteur de cette musique de ballet à redécouvrir bien sûr. Ferdinand Hérold, qui est un compositeur français, qui est né à Paris en 1791, en pleine révolution donc, né d'ancêtres alsaciens, ce qui explique son nom Hérold, H-E-R-O-L-D, et de parents musiciens. Ferdinand Hérold qui va suivre au Conservatoire de Paris d'ailleurs le cours de composition d'Étienne Nicolas Méhul, que nous évoquions au début de cette émission. Il obtient l'un des premiers prix de Rome en composition et il fait une partie de sa carrière à Naples, puis à Munich et en Suisse, avant de revenir à Paris, où il devient l'un des compositeurs les plus en vue de la Restauration, donc après la chute de Napoléon. Et il est compositeur officiel de l'Académie Royale de Musique, donc de l'Opéra de Paris, où il travaille avec Jean-Pierre Homer, que je citais tout à l'heure, devenu désormais maître de ballet de l'Opéra de Paris. Et tous deux vont concevoir un spectacle qui va marquer les esprits. Il s'agit de La fille mal gardée. Alors il s'agit d'un titre qui a été employé plusieurs fois dans l'histoire de la danse. Dès 1758, il y eut un spectacle chorégraphique intitulé La fille mal gardée. Il y aura plusieurs versions musicales de cette fille mal gardée qui est restée au répertoire des danseurs. C'est la version de Ferdinand Hérold qu'on va entendre, qui a été dansée par Pauline Montessu, première danseuse de l'Opéra de Paris, et puis plus tard par Fanny Elsler, grande danseuse autrichienne, qui reprend cette fille mal gardée en 1837, 4 ans après la mort de Hérold, et qui va donner Fanny Elsler son nom à quelques variations, dont voici un extrait. Thank you. Il s'appelle Wordsworth, comme le grand poète William Wordsworth, mais c'est Barry Wordsworth, le chef d'orchestre, qui dirigeait ici l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool dans cet extrait de La fille mal gardée de Ferdinand Hérold, les variations de Fanny Elsler.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous avions déjà abordé le sujet du mélange entre opéra et ballet à l'Opéra de Paris avec la musique ancienne, la musique baroque. Nous allons entendre de nouvelles partitions lyriques dans lesquelles les compositeurs ont intégré, de gré ou de force parfois pour l'Opéra de Paris, des musiques de ballet. Ce fut le cas de Gioachino Rossini le 3 août 1829 pour la création de son ultime chef-d'œuvre lyrique Guillaume Tell, dont l'ouverture est depuis de nombreuses années le générique de l'émission Carrefour de l'Odéon, que vous pourrez retrouver tous les dimanches à 14h. Mais ce n'est pas la célèbre ouverture et sa cavalcade qu'on va entendre là. C'est la musique de ballet que Gioachino Rossini avait intégrée pour faire danser les danseuses et danseurs de l'Opéra de Paris. C'est l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Antonio de Almeida, que voici dans un pas de 6, extrait de ce Guillaume Tell de Rossini.
Thank you.
Un pas de 6 mis en musique et en mouvement par Rossini dans cet extrait de Guillaume Tell avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo dirigé par Antonio de Almeida. Nous sommes donc là en 1829 avec cette partition immortelle qui est créée salle Le Pelletier. L'Opéra de Paris a changé de nom. Il a également de nombreuses fois changé d'adresse. Jérémy Rousseau y est revenu cet été à de nombreuses reprises dans une série d'émissions que je vous invite à retrouver sur notre site internet. L'Opéra de Paris se trouvait rue de Richelieu lorsque le duc de Berry, fils du futur Charles X, avait été poignardé par un bonapartiste en 1820 et le roi Louis XVIII avait ordonné en sa mémoire de faire raser l'opéra et de le reconstruire plus loin. Ce sera rue Le Pelletier dans le 9e arrondissement. Donc à partir de 1821, on parle de l'opéra Le Pelletier. C'est là que fut créé Guillaume Tell de Rossini. C'est là que sera créé deux ans plus tard, en 1831, Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer sur un livret de Eugène Scribe, immense succès de l'Opéra de Paris, non seulement pour le chant, mais également pour la danse, et en particulier pour une danse que nous allons entendre, c'est le ballet des nonnes maudites, des nonnes damnées, qui sont invitées à revenir sur terre par le démon Bertram. Elles tentent de séduire Robert par le vin, par le jeu, et enfin par l'amour. C'est, dit-on, la naissance du ballet romantique que cette partition de Giacomo Meyerbeer, dont voici un extrait par l'Orchestre Symphonique de Barcelone, dirigé par Michał Nesterowicz. Thank you. C'est à la fin du troisième acte de cette partition Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, créé à l'Opéra de Paris en 1831, qu'on peut entendre ce ballet des nonnes, ici interprété par l'Orchestre Symphonique de Barcelone, dirigé par Michał Nesterowicz. Une musique que connaissait bien Richard Wagner, qui, malgré ses pamphlets antisémites, violemment antisémites contre le juif Meyerbeer, Richard Wagner semble s'être inspiré grandement de Robert le Diable, que ce soit dans le Ring et surtout dans Parsifal. Richard Wagner, dont il sera question demain avec la création parisienne et chorégraphiée de son Tannhäuser en 1861. Mais restons sur France Musique en compagnie de Meyerbeer, créateur du grand opéra à la française, ses spectacles hauts en couleur, en 4 heures ou 5 heures, réunissant sur une grande échelle orchestre symphonique, décors somptueux, machinerie et bien sûr corps de ballet. Ce fut le cas 5 ans après Robert le Diable, toujours dans cette salle Le Pelletier de l'Opéra de Paris, en 1836, avec les Huguenots, sur un livret de l'incontournable Eugène Scribe, qui s'inspire des massacres de la Saint-Barthélemy en 1572, pour cette partition dont voici une danse bohémienne, avec dans le rôle de deux bohémiennes, Véronique Bauer et Elina Bordry.
Je pense.
Le chœur de l'Opéra National de Montpellier et l'Orchestre Philharmonique de Montpellier dirigé par Cyril Diederich dans cet extrait du troisième acte des Huguenots de Giacomo Meyerbeer.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
L'opéra chanté intègre des ballets, comme on vient de l'entendre, avec cette danse bohémienne. Mais bien sûr, l'Opéra de Paris commande des ballets à part entière, comme ce célébrissime ballet romantique créé en 1832. C'est la Sylphide, d'après un conte de Charles Nodier, chorégraphie de Filippo Taglioni, qui fut pendant 10 ans maître de ballet de l'Opéra de Paris dans les années 1827-1837, avant de diriger ceux de Saint-Pétersbourg. Filippo Taglioni, fils d'un grand danseur et père d'une légende de la danse, Marie Taglioni, qui va incarner la première Sylphide en 1832, donc dans cette chorégraphie réglée par son père. Marie Taglioni qui utilise une technique de pointe promise à un grand avenir et qui se vêt d'un tutu qui sera le symbole par excellence de la danse classique. Cette création en 1832 s'était faite sur une musique de Jean Schneitzhofer. Je n'en connais pas d'enregistrement, il y en a certainement, mais en tout cas je n'en ai pas trouvé. Alors 4 ans plus tard, c'est Auguste Bournonville qui transporte la Sylphide à Copenhague avec une autre musique dont nous avons un enregistrement, celle de Monsieur Lovenskiold.
Thank you.
l'orchestre symphonique d'Aalborg dirigé par Peter Ernst Lassen dans cette version danoise de la Sylphide, partition de 1836 d'un certain Hermann Severin Lovenskiold. La Sylphide va connaître un très grand succès. Théophile Gautier écrit, elle nous montre des ronds de jambes et des ports de bras qui valent de longs poèmes. Quant à Victor Hugo, il envoie l'un de ses livres à Marie Taglioni, à vos pieds, à vos ailes, avec cette dédicace extraordinaire. 1836, donc, c'est à Copenhague que triomphe une autre Sylphide. Marius Petipa, en 1892, la proposera à ses spectateurs de Saint-Pétersbourg avec des rajouts de Ricardo Drigo. Difficile de suivre souvent ces partitions chorégraphiques tant elles sont modifiées, changées d'un compositeur à l'autre. Et puis il peut y avoir des confusions, par exemple entre la Sylphide et les Sylphides. C'est le nom d'un ballet, qui a été présenté à Paris en 1909 au Théâtre du Châtelet par les ballets russes. Nous sortons brièvement de l'Opéra de Paris pour cette petite parenthèse chopinienne, puisqu'il s'agissait en 1909 de rendre hommage non seulement à la Sylphide historique, mais également à quelques partitions de Frédéric Chopin qui ont été orchestrées. Robert Irving dirigeait l'orchestre Philharmonia dans cet extrait des Sylphides, chorégraphie qui est une musique de Frédéric Chopin, la valse en sol bémol majeur opus 70 numéro 1, orchestrée ici par Roy Douglas, les ballets russes ayant fait appel à Glazounov pour ses orchestrations. Mais revenons à l'Opéra de Paris et à ses ballets avec une date historique, c'est le 28 juin 1841 et la création d'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre de tous les ballets, c'est Gisèle d'Adolphe Adam, qui a été chorégraphié par Jean Coralie et Jules Perrault avec Carlotta Grisi dans le rôle titre et Lucien Petipa. Gisèle, dont voici un grand extrait du deuxième acte par l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Michael Tilson Thomas, Théophile Gautier déclarant « La musique de Monsieur Adam est supérieure à la musique ordinaire des ballets. Elle abonde en motifs, en effets d'orchestre. Elle contient même, attention touchante pour les amateurs de musique difficile, une fugue très bien conduite. » Le second acte résout heureusement ce problème musical du fantastique, gracieux et plein de mélodies. L'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Michael Tilson-Thomas, dans cet extrait de Gisèle d'Adolphe Adam. Et ainsi s'achève cette émission.
À réécouter sur francemusique.fr.